Voilà, moi j'avais préparé mon intervention dans l'esprit de vous faire part d'une proposition. J'ai mis éléments pour un cours de master sur l'enseignement des sciences économiques et sociales. Cette proposition, en réalité, elle est basée sur des cours que je fais déjà, à la différence de ce qui a été exposé tout à l'heure, mais que je fais déjà, mais pas dans le cadre de l'IEFM, dans le cadre d'un master qui a été créé à l'Université de Paris 1, et puis où j'ai été invitée parce que j'avais déjà fait des interventions dans les IUFM sur l'histoire de l'enseignement des sciences économiques et sociales. Donc j'ai été invitée parce qu'en fait j'ai fait un travail de recherche il y a une quinzaine d'années sur la création de cette discipline et son instauration dans les établissements scolaires. Alors je pense que j'étais invitée justement dans l'esprit de donner au futur. Alors dans les, c'était en général les PLP2, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà reçus au concours. J'étais invitée pour essayer de conforter l'identité professionnelle de ces jeunes enseignants. Et puis un mot sur ce master parce que ça change un peu le contexte. C'est un master donc qui a été créé pour faire durer et exister une préparation au CAPES et à l'agrégation de sciences économiques et sociales à Paris 1, agrégation externe et interne. Paris 1 étant une université, et c'est dans l'UFR d'économie. Ce qui ne va pas de soi parce que les sciences économiques et sociales sont une, enfin comme je vais le rappeler tout à l'heure, sont une création quelque peu dissidente par rapport à l'université, notamment en économie. Donc, pour maintenir cette préparation au CAPES et à l'agrégation qui avait été une création historique, un peu comme certaines choses arrivent dans les universités, une chose surprenante, une initiative en fait d'anciens de Prague, sciences économiques et sociales. La personne responsable a eu l'idée de dire que c'était un master professionnel et de formation au métier de l'information et de la formation économique. Et pour que ce master professionnel soit accepté dans la maquette, elle a créé un cours de sciences de l'éducation. Alors, vous voyez, c'est tout de même intéressant de savoir ce que c'est que ces montages, parce que, d'une certaine façon, elle a anticipé sur ce qui est... Ce master vient d'être transformé en master professionnel, nouvelle formule. Et donc, il fallait trouver quelqu'un qui puisse être accepté par l'université Paris 1. Or, il se trouve que j'ai une thèse en économie et que je suis par ailleurs qualifiée en sociologie. Donc, j'étais acceptable dans cet univers universitaire, si vous voulez. Et donc, j'avais donc à montrer, d'une certaine façon, que les sciences de l'éducation étaient tolérables dans ce cadre-là. Ça, c'était pour la maquette. Et puis, du côté des étudiants, évidemment, leur apporter quelque chose qui les intéresse et servent à quelque chose. Donc, ce que je vous propose, c'est, à partir de ces expériences, je fais ce cours depuis 3 ans, à raison de 18 heures sur le deuxième semestre, ce qui veut dire que les étudiants, en réalité, comme ils préparent le CAPES et l'agrégation, ils ont tendance à ne plus venir dès que les concours ont eu lieu, et donc, surtout si je fais mes cours au mois de mai. Au moment où c'est les euros. Et donc, il faut que j'arrive à quelque chose. Et pour arriver à quelque chose, je vous dis tout de suite, on fait toujours pareil, j'ai une procédure d'évaluation. Autrement dit, mon cours est pensé en fonction d'une évaluation et donc doit leur servir pour une évaluation que je veux pas trop sotte. C'est-à-dire qu'en réalité, je leur demande de me rendre... Alors, ils sont tout de même intéressés à avoir les concours, mais ils sont aussi intéressés à avoir le master. Enfin, et donc, pour avoir la validation master, il faut qu'ils passent mon épreuve. Et mon épreuve, ils l'ont pas encore passée. C'est-à-dire qu'ils préparent un mémoire d'une quinzaine de pages qui me rend en septembre-octobre et qui est au choix un travail de lecture critique sur un certain nombre de... sur une bibliographie que nous décidons ensemble, sur un thème que nous décidons ensemble, qui est toujours dite de sciences de l'éducation, et où ils font un petit travail de recherche empirique, en fait, sur un corpus autour d'un sujet que nous définissons ensemble. Donc mon cours de 18 heures est au service, si vous voulez, dans un premier temps, de leur donner des centres d'intérêt nouveaux, de leur montrer que ça va toucher leur vie professionnelle, et essayer de l'instruire, et d'autre part, d'essayer de leur donner un cadre conceptuel pour ce travail. Alors j'ajoute à ça qu'au demeurant, il se trouve que depuis 3 ans, le thème de sociologie de l'éducation est au programme de l'agrégation de sciences économiques et sociales. Donc et ils vont aussi y chercher des complémentarités. Et j'y gagne, parce que ils vont faire des lectures qui vont aller pour mon cours, et s'ils n'ont pas cette année l'agrégation, l'année d'après, ils auront lu quand même des choses qui pourront leur servir. Voilà, donc la proposition que je vous fais, il manque un i, peu importe, n'est pas tout à fait le cours. C'est un cours théorique qu'on pourrait faire à partir de mon expérience. Vous voyez, c'est le cours parfait que je ne fais pas, mais que... Alors, comme vous le voyez, vous allez voir, il y a des ressemblances. Peut-être que je vais vous dire, donc, il est construit, ce cours, au fond, sur un implicite qui va retrouver certaines des hypothèses de nos collègues de tout à l'heure. C'est que, alors, j'ai devant moi des gens qui sont pour partie des étudiants, et notamment des économistes, c'est souvent le cas, et qui apprennent, qui commencent la sociologie pour la préparation au concours du CAPES. Donc, ça, c'est une... disons les 2/3 de mon public, et puis j'ai 1/3 de professeurs qui ont qui sont en préparation à l'agrégation interne et qui sont absolument ravis parce qu'ils ont une année de congé, ce qui leur est, ils exercent depuis 5 ans, 10 ans, etc. Ils ont donc une expérience professionnelle, et ce mélange est fort intéressant parce que on a les anciens et les nouveaux, on a des générations diverses dans le même cours. Voilà. Et donc, tout est orienté, en fait, pour, de mon point de vue, pour le point 3, c'est-à-dire en venir à leur discipline et je pense que ma finalité est d'essayer de désencastrer, de contextualiser, de leur donner à contextualiser la discipline qu'ils enseignent ou qu'ils vont enseigner, à la fois dans une perspective, disons, horizontale et verticale, c'est-à-dire à la fois historiquement et aussi au sein du système scolaire d'aujourd'hui. Donc je ne prétends pas faire un cours d'histoire de la discipline scolaire. Je fais plutôt un cours de socio-histoire, sociologie-histoire, pour une finalité qui est de dire, voilà, vous enseignez une discipline qui est située... à la fin du cursus scolaire des lycéens, mais votre discipline, il faut savoir que elle a vécu beaucoup de il y a une certaine il y a une identité assez forte des enseignants de cette discipline, et il y a une association qui est très encadrante des enseignants de cette discipline, et donc il y a aussi un peu de paranoïa mon hypothèse est qu'il est bon de se situer dans une histoire collective et une histoire propre aux enseignants de cette discipline, pour que ils aient un regard plus large sur leur mission d'enseignant. Et je pense que mon idée est aussi que j'aimerais les aider à se saisir des marges d'intervention qui sont les leurs, dans la position qui va être la leur en tant qu'assignant. Donc mon cours est prévu sur trois grandes parties. Je me suis rendu compte que les enseignants chevronnés que j'ai dans mes cours savent très très peu de choses sur le système scolaire français et ses évolutions, disons modernes, au 19e et au 20e. C'est même très surprenant compte tenu du fait qu'ils ont à enseigner des choses sur la mobilité sociale, sur l'insertion professionnelle, et il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent, notamment sur les évolutions du second degré, du secondaire, et je vais y revenir tout à l'heure un peu, et sur le professionnel dont on parlait tout à l'heure. Alors qu'ils sont souvent dans des lycées polyvalents où il y a des filières technologiques et des BTS, où on enseigne aussi de l'économie juste à côté. Et puis la deuxième partie, elle est liée à l'idée qu'il y a sur pour ces professeurs qui vont enseigner de la sociologie aux lycéens et qui, pour certains, commencent à faire de la sociologie ou en ont déjà fait, je veux leur donner à connaître qu'il y a des savoirs sociologiques sur le curriculum. Parce que s'ils ont envie de me faire un travail empirique, j'aime mieux qu'il soit bien construit. Et donc qu'ils s'appuient sur les disciplines qu'ils sont supposés maîtriser en tant qu'enseignants. Et enfin, je veux mettre en perspective le cas des sciences économiques et sociales, je le disais tout à l'heure, pour qu'ils se rendent compte qu'il y a des marges d'intervention possibles, qu'il y a du socialement construit dans le curriculum, tant réel que formel. Alors je sais pas ce que... je vais aller assez vite sur l'aperçu historique, parce qu'on en a déjà longuement parlé tout à l'heure, mon but est un aperçu, et je m'appuie surtout sur les documents dont ma formation, dont je suis familière, puisque évidemment, comme tout économiste ou sociologue, je fréquente les données sociales, et donc de façon très naturelle, je vais aller chercher dans les statistiques, dans les données de l'ADEP, notamment donc dans cet article de SQ et Main sur un siècle d'éducation. A donné un aperçu des grandes évolutions du système scolaire. Voilà. Mais j'aime bien montrer que le secondaire a une place qui s'est construite dans le système scolaire français. Je passe parce que je ne vais pas, si on veut aller relativement vite, je ne crois pas que ce soit le point sur lequel je sois la personne la plus compétente, même si j'essaye de le devenir, pour parler de ça. Alors ensuite, il est intéressant pour moi de situer l'apparition des filières dont les sciences économiques et sociales, dans laquelle la B, en fait, et la voie ES, dans l'histoire du second degré, et donc dans la dynamique historique de l'unification des collèges des années de l'après-guerre. Voilà. Je passe, sauf si vous souhaitez que je développe un point pour me demander. Mais le thème est donc diversification et massification au lycée à la fin du XXe. Vous comprenez bien que la question de la diversification est très importante pour les sciences économiques et sociales, puisque les sciences économiques et sociales existent dans une voie qui est la voie B, dite ES après la réforme pédagogique des lycées, créée en même temps que les voies technologiques, les voies G, dans lesquelles il existe un autre enseignement d'économie, qui s'appelle économie et gestion, et qui sont créées au même moment. Et donc, quand on se pose des questions d'identité, il faut connaître le paysage qui existe tout autour. Et les raisons pour lesquelles il y a eu deux sortes de filières qui ont été créées en même temps, l'une dans l'enseignement général, l'autre dans l'enseignement technique, avec comme spécification particulière d'y mettre de l'enseignement d'économie, associé à d'autres disciplines en ce qui concerne les G. Bon, j'insiste aussi dans cette histoire sur le fait que le 19e et le 20e sont une période d'élévation continue de la scolarisation et de l'espérance de scolarisation des élèves, et donc sur le caractère contre-intuitif du retournement d'après l'année 2000, qui voit pour la première fois dans l'histoire française se retourner l'espérance de scolarisation et baisser l'espérance de scolarisation moyenne. Alors bon, j'ai en face de moi des gens qui savent un peu ce que c'est qu'une statistique et qui sont assez étonnés de ce constat, en même temps que j'insiste aussi sur la question de l'efficacité et des mesures des acquis et des résultats qui elle aussi se retourne après 2000, où on est amené à voir qu'il y a, d'après les mesures qui en sont faites, une baisse du niveau des acquis des élèves, notamment du fait des 10 ou 15% du bas de la hiérarchie des acquis entrés en 6e ou fin de 3e, enfin, ou à 15 ans dans les enquêtes PISA. Bon, juste un mot là-dessus, parce que ça m'a surprise. Cette baisse, ce retournement après 2000, cette baisse de l'espérance de scolarisation, est le fait, n'est pas le fait de tous les pays capitalistes développés. C'est une surprise. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choix et d'autres organisations qui font que l'allongement de la formation tout au long de la vie ou des études universitaires fait que l'espérance de scolarisation continue à monter dans d'autres pays européens, alors qu'il s'est retourné pour la France et qu'il diminue. La deuxième partie est donc consacrée à essayer de donner à connaître l'existence de conceptualisation sociologique sur les questions curriculaires. Donc là, je ne prétends pas me placer dans une histoire, mais au contraire, une sociologie. Je m'appuie notamment sur, évidemment, mes lectures de Jean-Claude Forquin, de ses différents ouvrages. Là, je cite 2008, mais on pourrait citer aussi ses ouvrages antérieurs. Et mon cours est organisé en deux parties. Une partie relative à la question de la sélection des savoirs qui sont mis au plan d'études des élèves, et une autre partie est relative à la mise en forme de ces savoirs, ce que Forquin, suivant Durkheim, en fait, appelle morphologie du curriculum. Et sur ces deux, alors, la morphologie étant l'étude sociologique de la façon dont on rend enseignable des contenus. Donc il y a une grande question sociologique qui est celle de que doit-on enseigner, comment choisir dans la culture, comment les sociétés, les processus sociaux constituent des choix dans la culture, ce qui doit être mis au curriculum. Et puis, un peu autre est la question de la mise en forme des contenus pour les rendre enseignables. Évidemment, la mise en forme étant liée au contexte, c'est-à-dire à quel public on s'adresse, quel âge a-t-il, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont les finalités qu'on se donne et quelles sont les autres contraintes institutionnelles relatives à l'école. Là-dessus, quel auteur, quel concept est-ce que je mobilise pour donner un contenu à tout ça? Alors, sur la question de la sélection des savoirs à transmettre dans les plans d'études, je mobilise d'abord la lecture de l'évolution pédagogique en France, puisque Durkheim nous propose dans cet ouvrage qui, vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, Durkheim a été nommé à la Sorbonne au début du XXe siècle sur une chaire où il a enseigné les agrégatifs et dans son premier cours donc de préparation, un cours ressemblant à celui que nous essayons de faire, dans son premier cours, celui de 1902, il se propose, donc c'est les notes de cours des étudiants qui ont donné l'ouvrage dont je parle, il se propose de retracer l'histoire de l'institution secondaire, en fait, en reportant depuis les Carolingiens jusqu'à nos jours, c'est-à-dire 1902, et il montre que les contenus qui sont mis au plan d'études dans cette histoire, qui par ailleurs a été critiquée, mais bon, c'est pas mon... Je ne suis pas en mesure de porter appréciation sur la critique, donc que ces contenus sont en rapport avec l'idée de l'homme que l'on veut former à chaque époque. Donc l'idéal que l'on se donne, et il essaye de montrer comment cet idéal va changer et comment les curricula changent au regard de cet idéal. Et donc, son ouvrage est intéressant. Moi, j'y vois, comme fil conducteur, cette critique de l'abstraction humaniste de l'éducation classique des jésuites qui a caractérisé les lycées français qu'il a encore sous ses yeux, et le plaidoyer pour un enseignement au XIXe siècle du monde réel avec l'avancée de l'enseignement des sciences. Et dans le dernier chapitre de l'évolution pédagogique, il propose un enseignement des sciences sociales qui soit un enseignement rationnel et scientifique. Je prends matière aussi d'autres travaux qui s'intéressent à la question des spécialisations, donc au 19e et surtout au 20e en fait, et de la cohérence des différentes filières de l'enseignement. Et là, je m'appuie par exemple sur les travaux de Michael Young. Dans cet ouvrage, Michael Young est donc un sociologue anglais qui a été l'éditeur d'un ouvrage collectif qui a fait date, qui s'appelle Knowledge and Control, qui est publié en 1971 et qui est le point de départ, et un point d'arrivée et un point de départ de travaux de sociologie du curriculum qui ont été liés à la mise en place d'un cours de sociologie dans la formation des maîtres en Angleterre. cours qui est d'ailleurs disparu maintenant et ce qui montre en effet combien l'introduction d'obligatoire d'un enseignement a des effets sur les connaissances qui sont créées au service de cet enseignement. Alors, Michael Young défend l'idée qu'il y a une stratification sociale des savoirs qui est en rapport avec la division sociale du travail. Et que les savoirs, en gros, les savoirs les plus abstraits, on les donne à connaître aux catégories sociales qui vont occuper les postes les plus prestigieux dans la société, et aux classes et aux catégories défavorisées, à la classe ouvrière, les savoirs les plus pratiques et les plus concrets. Bon, je fais vite, ça a l'air un peu schématique comme présentation. Mais Lucie Tanguy a réutilisé ces catégorisations pour réfléchir sur les contenus différenciés des enseignements des filières générales et professionnelles en faisant des comptages d'horaires, de coefficients et d'intitulés de cours pour montrer le bien fondé de cette hypothèse et en l'appliquant au contexte français. Et puis il y a des travaux cherchent à se demander non pas comment les curricula seraient hiérarchisés, mais comment se sont construits et ont émergé des matières scolaires. Donc travailler cette question de l'émergence des matières scolaires, en plus de la source qu'est Jean-Claude Forquin avec la bibliographie qu'il donne des travaux anglo-saxons, par exemple de Goodson ou de Musgrove, qui donne à connaître, je m'appuie sur la synthèse qu'Isabelle Harlet a faite dans son ouvrage récent sur la fabrique des savoirs scolaires. Voilà. Là, je cite aussi le travail de, je ne sais plus son prénom, Rhin, sur la géographie. Patricia, non, ça, c'est Patricia Legris. Oui, j'ai oublié, enfin. Catherine Rhin, voilà. Alors, c'est assez difficile de complètement séparer cette première partie de la deuxième. J'ai toujours un peu de mal, mais enfin, bon, mon but étant de donner des éléments conceptuels, de toute façon, ça se discute. Hein. Enfin, il me semble qu'il y a quand même une autre question qui est celle de quelle est la forme que les savoirs prennent, j'allais dire doivent prendre, mais non, prennent, pour devenir enseignables. Et là-dessus, il y a un certain nombre de travaux que je sépare en fonction, je dirais, de l'échelle d'observation à laquelle ils se situent. Alors, à un niveau macro-social, le grand inspirateur, c'est Bernstein. Alors, Bernstein, donc, Basile, sociologue anglais que vous connaissez peut-être pour l'ouvrage qu'il a écrit, qui a été édité par Bourdieu, qui s'appelle « Langage et classe sociale » dans les années 70. Mais là, il s'agit plutôt de ce qu'il dit dans « Knowledge and Control », dans le texte qu'il a fait pour « Knowledge and Control » sur la classification des curricula qu'il propose. Et il propose, alors Bernstein, comme d'autres, est très inspiré de Durkheim, mais non pas le Durkheim de l'évolution pédagogique en France, mais le Durkheim de sa thèse, de la division du travail social. Durkheim propose deux types de solidarité dans les sociétés, la solidarité mécanique et la solidarité organique. Il distingue donc les sociétés dans lesquelles existe une solidarité mécanique, qui sont les sociétés traditionnelles, dans lesquelles chacun a une place fixe, figé et obéit une règle commune, des sociétés à solidarité organique où se développent les individualités, où le problème devient celui de la dépendance et l'interdépendance d'individus qui tentent à s'autonomiser les uns par rapport aux autres. Bernstein va reprendre ces deux pôles de distinction pour opposer ce qu'il appelle les curricula organisés sur le code sériel des curricula organisés suivant ce qu'il appelle le code intégré. Dans le code sériel, les matières sont bien distinctes les unes des autres, bien classées, bien démarquées, et les cadrages sont très fixes. Il y a peu d'interpénétration, chacun travaille dans son domaine, un peu séparé des autres. Tandis que dans les curricula organisés sur un code intégré, on va privilégier le travail, l'interdisciplinarité, le travail en équipe. Et donc, de ce fait, il y a beaucoup plus d'horizontalité, Donc on est plutôt du côté de l'intégration alors, et de la solidarité donc, organique, tandis que dans les codes sériels, on serait plutôt du côté de la solidarité mécanique. Il a donné une grande envergure à son analyse, notamment ces dernières années, pour dire que en gros, les développements des curricula allaient dans au regard des changements dans la division du travail social. Donc on revient à la question un peu tout à l'heure sur le français et les professions, allaient dans le sens de plus d'intégration. Et avec ce qu'il appelle des risques relatifs à ce qu'il appelle la pédagogie invisible. C'est lui qui invente, avant Pernoud, le terme de hidden curricula, curriculum caché, pédagogie invisible. Parce qu'il dit qu'à ce moment-là, quand les codes sont intégrés, on va privilégier la résolution de problèmes, le travail en collectif, mais les règles sont moins claires, moins faciles à connaître, moins écrites, et il y a bien plus de contrôle des uns sur les autres, au nom d'une sorte de transparence. Il y a un contrôle social, finalement, très envahissant. Alors, ces catégories ont été utilisées par Manguez récemment pour comparer le système belge et le système français, donc pour c'est une catégorie des catégories heuristiques en fait, pour essayer de voir si elles marchent, pour analyser ce qui se passe aujourd'hui au niveau des grandes modifications des curricula en Belgique et on pourrait le faire aussi pour la France avec le développement des compétences et du socle. En réalité, il montre que ça marche, enfin. Il n'est pas tout à fait. Il arrive à des conclusions qui ne sont pas celles de Bernstein, en utilisant ces catégories. Elles sont aussi utilisées autrement dans l'ouvrage récent d'Elisabeth Bottier et Patrick Rayou, qui ils utilisent ces catégories de Bernstein pour se demander si, comme le suggère Bernstein, le développement des codes intégrés, des pédagogies invisibles, serait un facteur qui expliquerait le relatif échec par des malentendus socioculturel, le relatif échec des enfants des catégories défavorisées dans le développement de la scolarisation. Voilà. Alors, pour un niveau, à une échelle qui n'est plus macro-sociale et critique, mais à une échelle plus méso-sociale, qu'est-ce que je trouve pour parler de la mise en forme du curriculum ? Alors, je trouve des considérations sur la forme sociale qu'est la discipline scolaire, donc on en arrive à notre sujet. Pour ce point, je m'appuie sur les travaux d'André Chervel, ici présent, et aussi sur ce que j'ai trouvé, suivant les conseils de Forquin, chez Musgrove et chez Goodson, qui considèrent les disciplines plutôt d'un côté, comme des communautés sociales sociologiques. Et donc, il s'intéresse moins à la discipline du côté des contenus que la discipline comme au sens de la sociologie des professions. Il y a d'ailleurs, je me permets de le dire, il y a un recoupement, j'y reviendrai tout à l'heure sur les sciences économiques et sociales, entre la sociologie des professions de langue anglaise et les travaux de gens comme Goodson et d'un autre dont je parlerai tout à l'heure, qui est Barry Cooper. C'est-à-dire, ils sont formés à la sociologie des professions, et quand ils parlent de discipline, ils entendent la discipline comme profession, et pas tellement comme contenu. Et ils se posent la question de la communauté de la profession, de l'identité professionnelle, de ces gens qui sont recrutés par concours, et on va retrouver le concept de profession en sociologie. Et j'utilise aussi les travaux sur la question de la légitimité d'un enseignement suite aux travaux de Véret, Chevalard, Martinan, Véret étant un sociologue qui s'est notamment intéressé au travail ouvrier, à la culture ouvrière, et les autres étant des didacticiens. Donc là, c'est encore la sociologie ressaisie par l'éducation, mais du côté des contenus, là. Et de la question épistémologique sous-jacente, on est complètement de ce côté-là, mais vous connaissez. Et enfin, j'essaye de faire un développement sur les nouvelles structurations curriculaires et les interrogations qu'elles posent autour du terme de socle et de compétences. Mais je ne suis pas allée très loin encore là-dessus. Parce que c'est quand même une question morphologique. Parce que c'est quand même très intéressant de se demander quels sont les mots pour le dire et quelles sont les formes. Oui, je crois que c'est très important. Alors, j'en viens au cas des sciences économiques et sociales. Alors, sur le cas des sciences économiques et sociales, j'essaye, disons, de rassembler mes outils que j'ai établis avant pour venir leur parler à mon public de ce qui le concerne de plus près et pour voir si ces outils fonctionnent et peuvent nous servir à quelque chose. Puisque je vous rappelle qu'ils sont supposés faire un travail pratique, enfin eux-mêmes. Et donc, ils sont pas du tout obligés de faire un travail sur les sciences économiques et sociales. Mais disons que ça peut, s'ils veulent faire un travail empirique, ils ont intérêt à le faire là-dessus parce que ça leur demandera, c'est le plus approprié. Si au contraire ils veulent faire des lectures, ils peuvent faire des quantités de lectures sur autre chose d'ailleurs. Et quelquefois ils font des choses sur l'enseignement spécial des handicapés, les lycées professionnels, des choses tout à fait différentes quelquefois. La question de l'orientation, par exemple, des choses comme ça. Alors, je tiens quand même à leur expliquer des choses sur l'évolution institutionnelle de la discipline. Si j'ai le temps, j'essaye de leur montrer le décalage et les travaux qui existent, mais comme c'est les miens, entre le formel et le réel, et de donner un aperçu sur ce que la sociologie peut nous dire dans ce cas sur le rôle des enseignants précisément dans l'élaboration du curriculum formel et réel. Voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous parle de tout ce que de l'évolution institutionnelle des sciences économiques et sociales. C'est quand même intéressant que vous sachiez que c'est une création récente. Il n'y a pas tellement de disciplines qui ont été créées au XXe siècle. Donc là, il s'agit véritablement d'une création d'une discipline scolaire, j'allais dire ex nihilo, parce que quand elle est mise en place en 67, elle n'est pas la suite de quelque chose. Ou du moins, je n'ai pas trouvé, en cherchant, de quoi elle pourrait bien être la suite. C'est pas si fréquent. Je sais pas si c'est donc ça, c'est un objet intéressant, enfin original, un peu surprenant. Et en plus, on a la chance que, enfin plus maintenant, mais disons quand moi j'y ai travaillé, j'avais la chance que les créateurs fussent de ce monde et de pouvoir parler avec eux, puisque j'ai eu la chance de voir mon travail postfacé par Guy Palmade, qui a été celui qui alors c'est amusant parce que il écrit dans la postface, il était inspecteur général, alors il dit j'ai rien à faire avec cette histoire, donc j'ai rien à faire avec ce texte, il a été écrit tout à fait indépendamment de moi, je suis très étonnée de voir plus de rationnel dans ce que nous avons fait que je n'en avais moi-même mis en le faisant. Moi j'ai été surprise de le voir écrire ça parce que c'est toujours très surprenant de ce genre de rencontre, on va dire. Voilà. Alors cette création institutionnelle à l'occasion de la réforme Fouché a rencontré une adhésion enthousiaste d'un corps enseignant qui a été recruté pour le mettre en œuvre, et ça a donné une discipline dans les lycées d'enseignement. Mais cette discipline a rencontré des quantités de tensions, des difficultés à toutes les occasions de réformes qui ont eu lieu dans les lycées, que ce soit la réforme qui suit, au moment de la réforme ABI, donc il y a une répercussion sur les lycées, et l'existence de la discipline est mise en question par une commission où il y avait des historiens géographes. En 79-82, c'est au moment des modifications des classes de seconde, et là aussi pour créer une seconde de détermination. Il va y avoir, j'ai pas noté là, des difficultés à nouveau en 84-85 au moment des réformes Monory puis Chevènement qui vont proposer la suppression de la B et sa scission en deux, une A et une C ou une B1 et une B2. Il va y avoir encore des difficultés, des discussions au moment de la réforme pédagogique des lycées, mais au moment de la réforme pédagogique des lycées, au contraire, la discipline là fait un bond en avant et elle gagne en extension et en profondeur et elle obtient la reconnaissance de la sociologie. Et puis il y a à nouveau des difficultés avec la réforme d'Arcos Châtel, Luc Châtel. Voilà. Alors, je voulais, mais je ne sais pas si je m'étends, montrer comment les enseignants ont une influence sur le curriculum réel et qu'il est facile de l'apercevoir en sciences économiques et sociales au travers de cette forme de ce que j'appelle modèle didactique qui était certes inscrit dans les instructions d'origine avec l'idée qu'il fallait faire une pédagogie active, mais qui a pris un sens concret à travers cette chose qui s'appelle le dossier de document, qui est véritablement une création des enseignants. Alors évidemment, ça s'est pas tout à fait tout seul, parce que Guy Palmade, donc, qui était l'inspecteur général doyen de l'inspection de sciences économiques et sociales, était à ce moment-là directeur du C de l'INRDP et ex-INRP. Et à ce moment-là, il a créé un groupe avec une collègue qui était une ancienne professeure d'économie-gestion, passée par l'ENSET, qui était devenue sciences économiques et sociales. Et il a créé un groupe de pédagogie des sciences économiques et sociales. Et ce groupe a été un fer de lance pour la constitution et la diffusion des dossiers de documents. Parce que c'était un travail énorme pour les professeurs. Il n'y avait pas encore de manuel. Enfin, où il y avait peu de manuels. Et donc, essayer de tenir le challenge d'une pédagogie active s'est trouvé relayé par cette idée d'un dossier de documents qu'on met dans la classe et qu'on fait travailler aux élèves. Et qui sert en quelque sorte de substitut à la réalité économique et sociale qu'on va étudier dans la classe. Et donc, l'opérationnalisation de cette pédagogie a été rendue possible par ce soutien logistique qu'a été ce groupe à l'INRDP, puis ensuite par la revue Documents pour l'enseignement économique et social, puis ensuite par ensuite ça a été lancé, parce que des manuels de dossiers de documents ont été mis en œuvre par Jeannine Brémond, le premier en 79, et ensuite l'édition scolaire s'en a suivi. Et ce qui est intéressant de mon point de vue, parce que ça va dans le sens de l'idée que les disciplines sont des formes sociales de création de culture, c'est que sur ce cas-là, on peut montrer que cette forme de pédagogie va avoir un effet dans tout le domaine universitaire de référence. Évidemment, ça va pas de soi que l'agrégation qui est créée en 77, donc 10 ans après la création de la discipline, dans les épreuves d'agrégation, parmi les épreuves d'agrégation, il y a un dossier de documents. Je parle de l'agrégation externe. Il y a l'épreuve, une des deux épreuves orales est un dossier de documents très important, d'articles de référence, et le candidat doit présenter, il a, je me souviens plus, 3-4 heures, pour présenter une synthèse critique de ce dossier de documents au jury. Pour l'agrégation interne, il y a aussi un dossier qui est plus didactique, c'est-à-dire c'est un dossier pour les élèves, et le candidat doit préparer une leçon et une évaluation à partir de ce dossier. Je voulais dire aussi, évidemment, le baccalauréat est bâti pas tout de suite, mais l'épreuve qui va tenir de baccalauréat est une dissertation appuyée sur un dossier de documents. Il y a eu des périodes où le dossier était absolument énorme, mais ça a résisté dans le temps. Donc le dossier de documents est encore plus, disons, installé dans la discipline par l'épreuve de baccalauréat. Quand une nouvelle épreuve de baccalauréat est créée en 95, elle inverse la situation et elle fait travailler les élèves, comme un peu à la grègue interne, sur un dossier de documents, petit à petit, puis ils finissent par faire une synthèse. Mais donc le dossier de documents reste présent. Et je me suis aperçue récemment que le concours d'entrée à l'ENS pour la filière sciences sociales est devenu depuis donc une dizaine d'années, alors qu'il existe depuis les années 80, un dossier à une épreuve avec un dossier de documents. Et donc ce dossier de documents, vous me direz, c'est pas tellement original, mais néanmoins c'est un fait, est entré, a été validé, a été institutionnalisé à tous les niveaux, et ça a commencé par le niveau scolaire. Donc, réalisation d'abord enseignante. Et puis, voilà, ces dernières années, je me suis particulièrement intéressée, et donc j'essaye d'en faire usage pour ce cours, au rôle des enseignants de sciences économiques et sociales sur le curriculum formel, c'est-à-dire sur le contenu du prescrit. Et là-dessus, je m'appuie notamment sur le modèle proposé par Barry Cooper lorsqu'il analyse, sociologue anglais, lorsqu'il analyse la réforme des mathématiques modernes en Angleterre, et qu'il montre deux choses qui ne vont pas de soi, c'est que d'autres groupes sociaux s'impliquent sur le curriculum, hormis les universitaires, le politique, cabinet, ministère et spécialiste de l'éducation et les enseignants, syndicats enseignants, associations de spécialistes, etc. D'autres groupes sociaux s'impliquent. Lui, il pense aux industriels et notamment sur les questions de l'informatique dans le cas anglais. Ça m'a intéressé parce qu'on va retrouver la même chose en sciences économiques et sociales. Et d'autre part, que lorsque, alors, il développe, comme d'autres, le fait, et contrairement aux thèses bourdieusiennes, les enseignants du secondaire ne sont pas seulement dominés par la matière savante, mais que en s'impliquant sur le curriculum, ils défendent leurs intérêts et pas seulement ils sont pas seulement dominés par la recherche d'une réduction de l'écart entre le savoir savant et le savoir enseigné, on va dire. Et troisièmement, il montre que les enseignants ne sont pas forcément unis dans cette défense de quelque chose, mais que, comme dans les professions, il y a des segments, il y a des intérêts divergents, il y a des valeurs divergentes, il y a des cultures divergentes au sein même d'une discipline. Donc je vais retrouver tout ça, et je vais retrouver aussi l'idée que les groupes qui l'emportent sont ceux qui arrivent à mobiliser le plus de ressources politiques. C'est assez... c'est pas un scoop. Je vais retrouver tout ça, simplement, à la différence de ces travaux anglais, dans le cas des sciences économiques et sociales, alors il y a une chose qui est commune, c'est que sur l'évolution des 40, attendez, 66-2010, oui, des 40 dernières années, on va en effet vers plus d'alignement académique, moins d'intégration interdisciplinaire des sciences économiques et sociales. Donc c'est le contraire de l'évolution que Bernstein pourrait dire. On part d'un curriculum très intégré, intérieur à la discipline, hein. Et on va vers un curriculum dans lequel il y a de plus en plus la partie économie, la partie sociologie et la partie sciences politiques. Et de fait, la dimension historique est un peu gommée. Histoire sociale, elle est même supprimée en fait à partir de 82, et la dimension géographique est supprimée aussi à partir de 82. Donc on a bien, comme le montrent Goodson et les sociologues britanniques, une espèce de puissance de l'alignement académique qui peut s'expliquer par qui est en effet relayée par les enseignants à la recherche d'une légitimité et qu'ils vont trouver en s'appuyant sur le monde universitaire. Mais vous voyez bien, j'ai employé le mot académique et pas savoir savant ou scientifique. Voilà. Simplement, cette évolution vers un alignement plus académique ne se fait pas avec cette espèce de découpage que proposent les sociologues anglais entre les anciens enseignants qui seraient formés avant, plus pédagogues, et qui de ce fait refuse les maths modernes, enfin au moment de la réforme, et veulent enseigner à tout prix l'arithmétique, ou refuse la géographie modélisée et veulent la géographie physique et descriptive. Les clivages d'intérêts que je trouve du côté des enseignants de sciences économiques et sociales ne sont pas de cette sorte. Ne sépare pas les mieux formés qui seraient les plus nouveaux et les moins formés qui seraient les plus anciens et qui seraient plus pédagogues. Le clivage n'est pas du tout de cette sorte. Je dirais qu'il est plus politique. Il est plutôt sur la finalité citoyenne et critique de l'enseignement. Vous avez une grande majorité des enseignants qui veulent rester fidèles au projet initial qui était un enseignement à finalité civique, citoyenne et critique, et une minorité d'enseignants qui veulent un enseignement qui soit plus proche de l'enseignement des universités, notamment d'économie. Et donc, qui veulent moins, qui veulent une abstraction et une analyse économique plus pure, on va dire, et qui, de ce point de vue, s'appuient sur la théorie de la transposition didactique pour défendre ce point de vue contre une éducation à finalité éducation citoyenne et critique. Voilà. Donc, ce que je ressens, moi, c'est que tout ça mon cours lui-même est à compléter et que je suis dépendante, bien sûr, de mes lectures, mais aussi des travaux de recherche dans le domaine. Et j'aimerais, en fait, j'ai envie quand même de travailler plus aujourd'hui sur... J'ai commencé à essayer de travailler sur l'enseignement de l'économie dans le second degré dans d'autres pays. Pour enrichir cette idée toujours de casser un peu le schéma trop fermé, disons, du futur enseignant d'une discipline scolaire, non seulement par le recul historique, mais par le recul sociologique et la comparaison internationale.